Et bienvenue chez les Papous de France Culture jusqu'à 13h59. À l'affiche, les lectures de vacances de la bande, une pub sur les peu lus, selon Patrice Comont, le pamphlet pour ou contre les baskets en ville, suivi d'une réflexion sur les seins, selon Gérard Mandilla, et les bikinis pour une dernière invention du petit Léonard en cadeau à sa maman Vinci. Ensuite, retour au sport qui nous accompagne tout l'été dans la vraie vie avec un petit tour de boxe thaï en compagnie de Rimbaud et Prévert. Et pour finir, les bourrimés critiques pour Jacques Jouet et Hervé Letellier. C'est le dernier numéro des Papous de la saison. Un numéro placé sous le signe de l'été et de ses plaisirs, être presque nu au soleil, chanter à tue-tête et lire jusqu'à ce que les lignes dansent sous vos yeux, lire un pur bonheur, recommander les livres que l'on aime pour les partager, comme on partage un événement sur Facebook, ou vous pouvez nous rejoindre pour discuter, écrire vos essais sur nos jeux papous, échanger vos likes. Françoise Tressard et la belle équipe des Papous du jour vous souhaitent un joli dimanche papou à podcaster sur franceculture.fr. Avec Lucas Fournier, premier à prendre la parole quand un papou lit un autre papou, Lucas a lu, moi et François Mitterrand, un livre d'Hervé Letellier.
Oui, je voudrais à cette occasion en profiter pour faire une lettre ouverte à Hervé Letellier.
C'est une très bonne idée.
Oui. Cher Hervé, j'ai lu ton petit ouvrage, « Moi et François Mitterrand », paru aux éditions Jean-Claude Lattès. Il est vraiment très drôle, mais moi, il ne me fait pas rire du tout.
Ah.
Notre amitié Hervé remonte justement à ces années Mitterrand, et cette belle amitié que je pourrais dépeindre avec les mots des Torrescola, « Nous nous sommes tant aimés », cette belle amitié est aujourd'hui trahie. Oui, que tu aies entretenu à mon insu une relation épistolaire suivie et intime pendant plusieurs septennats avec non seulement François Mitterrand mais aussi Jacques Chirac et, de façon moins assidue certes, avec Nicolas Sarkozy et même François Hollande, c'est dur à admettre. D'habitude, tu n'es pas si modeste, mais tu avais gardé cela comme un secret de famille. Admettons, Hervé, que ce soit la part d'ombre de ton personnage jovial et frétillant. Oui, derrière le facétieux, derrière le vibrillonnant jongleur de mots, il y a aussi cet homme capable de murmurer à l'oreille des présidents. Mais ce qui me fait le plus de mal, Hervé, c'est que tu aies partagé avec François Mitterrand tes secrets, nos secrets les plus intimes et les plus lourds, ceux qui faisaient le socle de notre amitié profonde et fraternelle. Tes amours contrariés avec Madeleine, dont je croyais être à jamais le seul confident, tes vacances à Arcachon, ta liaison avec ta cousine à Charleville-Mézières, que nul autre ne devait connaître, les aménagements intérieurs de ta cuisine, et pire, pire, ces petites blagounettes si rigolotes que tu me racontais et dont je pensais être le seul à pouvoir rire. Bref, cette vérité de tout ton être, tu leur as donnée à eux aussi et tu les livres impudiquement au lecteur. Sous le héros de Sampé, on sent poindre Valmont. Mais le pire, c'est qu'ils t'ont écouté et entendu, ces grands hommes. Enfin, lu, parce que c'est du courrier, du vrai, pas des emails, des lettres officielles tapées à la machine avec le papier en tête, de l'Élysée. Dire que tandis que la guerre du Golfe éclatait, que les tours jumelles s'écroulaient, nos présidents songeaient à toi, Hervé. Car derrière les petits mots qu'ils t'ont adressés, si banals en apparence, on sent leur émotion et leur envie de t'aider. Toi qui sais la linguistique, tu es capable de comprendre l'understatement des messages officiels et de décrypter le discours élyséen. Moi, en première lecture des lettres que tu as reçues d'eux, je trouvais que le style de Mitterrand ressemblait terriblement à celui de Chirac, ou l'inverse. Et grâce à toi, qui lis entre les lignes, on comprend bien qu'ils n'étaient pas pareils, que les mêmes mots ou les mêmes phrases peuvent dire des choses contraires. Quelle étincelante leçon de littérature. Même Jacques Attali n'avait jamais osé aller si profondément dans le cœur du réacteur du pouvoir et dans l'œil du cyclope. Oh, bien sûr, ton livre est brillant. Il est stylé, comme on dit, et ton érudition est toujours pétillante. Mais à quel prix? Je n'ose même pas te poser la question de confiance de Camus entre le président de la République et moi. Qui aurais-tu choisi, Hervé? On me dit que de cet ouvrage, tu vas faire une pièce au théâtre du Rond-Point à la rentrée. Ça va marcher. Je ne sais pas pourquoi, mais les gens ont vraiment besoin de rire en ce moment. Et là, ils vont rire. Mais moi, je ne viendrai pas, non. Peut-être vais-je faire comme toi, confier mon désarroi au plus grand. Et pourquoi pas la reine d'Angleterre ?
Ah oui ?
Oui. Ah mais non, mais vous me dites, Françoise, qu'elle est déjà prise par Patrice Minet
mais
depuis
oui,
2006,
quelques années, ouais.
Qui a publié « Moi et la reine d'Angleterre » aux éditions Berg. Mm-hmm. Enfin, toi au moins, Hervé, tu as choisi la France et la République pour confidente. Si tu as encore besoin de moi, Hervé, si tu veux qu'on puisse dialoguer par courrier, comme toi et François Mitterrand, tu sais quoi ? Je suis prêt à me présenter en 2017 à l'Élysée. Ton ami et qui le reste ? Lucas.
Moi et François Mitterrand d'Hervé Le Tellier, moi et la reine d'Angleterre de Patrice Minet, à lire cet été. Et un autre conseil délivré par Patrice Caumont, sous forme de publi-papoucité. Il y sera question des peu lus, ces livres qui n'ont pas eu leur chance, ou alors pas assez de chance. Patrice Caumont, avec Philippe Manès, Jeanne Carillon et Gabriel Godard au piano chant.
Connaissez tous la SPA, mais connaissez-vous la SPAP ?
Non, ce n'est pas la Société protectrice des animaux en peluche. La SPAP, c'est la Société protectrice des auteurs pelus.
Car oui, ils sont en danger, les pelus, abandonnés dans l'indifférence et menacés à l'heure des best-sellers.
Il faut sauver les pelus.
Le pelu n'est pas un raté. Il a réussi, mais il y a déjà un certain temps.
Un pelu, c'est un être fragile et seul qui se situe entre le pâtre peul au désert et la peluche d'enfance mise au placard.
Le pelu commence par dater et puis il disparaît. On tombe vite en disgrâce, surtout quand on fait des croche-pattes façon Racine à Corneille.
Chaque printemps, chaque rentrée voit apparaître les impitoyables rivaux du pelu, du jeune loup aux dents plus longues que ses phrases jusqu'au vieux mâle qui brame. Pour garder ses lectrices.
Chaque jour dans le monde, on laisse mourir leurs livres en jachère. Les médias préfèrent le nouveau au génial.
Les amours jaunes de Corbière, c'est attristant, mais on les laisse jaunir. Et la Paulina de Jouve, qui ne date pas pourtant de 1880, il n'y a plus que sur le site du Bon Coin qu'on la trouve.
Et Jouve, qui s'en souvient, qui lit. C'est pas de la tarte, ces petits seins doux. Mais Jouve, il a lu Freud, il en met partout des rêves en miroir. Ça refoule un max, le transfert transpire. Il y a plein de ça. Au fond de ses tiroirs. Et chaque fois qu'il prend la plume, Pierre-Jean le Jouve, il faut que ça pulse, fantasme ou névrose. Histoire sanglante ou scène bien primitive, le sale barbote. Pas dans l'eau de rose. Ça, 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 ça.
Aidez-nous à mettre en place pour nos chers amis, les pelus, un véritable service de réanimation.
Les pelus ne sont pas des has-beens, simplement, ils rongent leur logos. Ils vous sauteront au cou dès que vous caresserez le doux pelage de leurs pages.
Franc du collier, ils sont plutôt velus, les pelus.
Compagnons fidèles, ils vous réveillent en sonnet, ils vous promènent en balade et en tirade sur la laisse. Ils vous emportent en quatrain de nuit au chevet de vos insomnies.
L'abandon des pelus culmine aux vacances. Pourtant, ils prennent peu de place et savent se faire tout petits, mais ils n'ont sans doute pas assez de pages pour faire des pavés de plage.
Nos petits pelus, nos amis dévoués sont aux abois, mais peuvent encore mordre notre ennui.
Le vrai tombeau du pelu, c'est l'oubli. L'arrêt du texte par abandon, toutes ces fables laissées pour compte.
Mais vous pouvez agir sur la quadrature du cercle des poètes disparus de vos écrans. et réagir contre l'ignoble censure de l'amnésie.
Oui, faites un geste simple pour sauver les pelus. Dans le désert des médiathèques, votre lecture sera l'averse bienfaitrice qui irrigue le texte et transfuse le talent.
En parrainant un livre, devenez lecteur anonyme de pelus.
Dès aujourd'hui, Taillot, en chasse aux textes perdus. Oubliez les perdreaux de l'année, les faisans du présent. Débusquez les vrais fauves enfouis. Relâchez la grande meute des pelus. Dénichez ces chiens perdus sans copier-coller.
Patrice de la Tour du Pin, quel désespoir si notre mémoire pose un lapin à tous les pelus. Et le Pierre Jean Jouve, y a plus que sur eBay que tu le trouves. Fac et dictionnaire, c'est le destin de tous les pelus. Au quatrain, où vont les choses, nos poètes jettent l'éponge comme de Francis Ponge, s'efface la prose de tous les pelus. Gloire sans escabeau pour Paul Jean Toulet, du grand Parnasse s'est fait refouler, pourtant Toulet c'est plutôt tout beau. Qui lira demain Richepin et Forain, Albert Samin, si l'on ne fait rien pour les bouquins de tous les pelus? Il y a pourtant Desnos, Larbeau et Soupeau, Nazim, Hikmet, Traquet, Mandelstam, et de quoi lire chez Paz et Pavès. Le tort de tous les pelus, c'est d'aimer bien trop les silences. Qu'un poème, ça s'oublie.
Merci Gabriel. Un autre auteur à lire, Patrick Beignet nous rejoint avec une envie forte, celle de nous raconter Christian Zemer. Quand un papou lit un autre papou.
Les fidèles auditeurs des Papous connaissent bien Christian Zemer, qui a pendant de longues années participé à nos émissions. Ouais. Ils connaissent aussi ses toiles, si souvent cruelles et dérangeantes, avec leurs titres mystérieux. Le Dormeur du Val, 125 ans après. La construction du pont du 15 août, monumental. Et les divers concours de suicide, pour ne citer que quelques titres.
Oui, moi j'ai La Théière de Chardin.
Christian Zemer a toujours eu en outre une fibre littéraire. En 2013 encore, il nous donnait « Viens Poupoulpe » dans la série policière lancée par notre ami Jean-Bernard Pouy. Et voici maintenant un recueil de 7 nouvelles placées une fois de plus sous le patronage du calembour, ce calembour qui est décidément l'arme favorite de Zemer. Tout est dit sur la couverture. Une photo de la station du métro Bonne Nouvelle, près de l'Opéra, et le titre en 4 mots « Métro Bonne Nouvelle ». Calembour, double sens, homophonie à niveau multiple, écho sans fin, résonance déraisonnable, le lecteur est sans cesse mis au défi de comprendre le dédoublement infini du sens. Pour ces jeux, dont je renonce à donner des exemples, car c'est anti-radiophonique possible, Zemer convoque petits et grands noms de la culture. Proust, Rubens, Sartre, Raymond Roussel, qu'il n'a guère lu, il le reconnaît lui-même, mais il en a retenu le principe du récit homophonique. Un personnage se nomme Hamlet. Il est balayeur de la Grande Galerie du Louvre et ne supporte plus la Joconde avec son sourire en coin. Il ne peut pas l'encadrer, dit-il. Plus surprenant, attendant le métro comme une simple Zazie, voici Marc-Antoine Charpentier, un descendant de l'inventeur du générique de l'Eurovision. Cette érudition pour rire et ses calembours hétéroclites cachent quelque chose de plus secret. Pendant qu'il se creuse les méninges pour essayer de comprendre les astuces les plus vaseuses, c'est le terme employé par l'auteur lui-même, Zemer nous conduit subrepticement en de tout autre domaine, ceux de son passé, de son enfance déjà lointaine, car il n'est plus tout jeune, Zemer. Le pays angevin, par exemple, une lente exploration sur la route qui suit les méandres de la Loire et relie les hameaux des Jubeaux au pont de Cé. ou encore des rêveries sur l'île de la Jatte, le Neuilly populaire où a grandi Zemmer, monde de vraies guinguettes et de promenades du dimanche, menacé par le béton malgré le temple de l'amour. Cette dimension autobiographique fait le prix de ces brèves nouvelles, ces bouffées d'enfance, comme pour résister à ce que Dubuffet nommait l'asphyxiante culture. Tiens, la prochaine fois que je croiserai Zemmer, je lui demanderai s'il a lu Dubuffet. Il trouvera bien un calembour pour me répondre.
Dubuffet de ma grand-mère.
Sur la commode.
Oui, c'est pas commode.
Ouais, carton. Et je vous signale une rétrospective des peintures de Christian Zemmer. Plus de 50 toiles au titre calembourgeois. Ce sera en septembre et octobre prochain à la faculté de Rouen, Mont-Saint-Aignan.
Des papous dans la tête. Vous les écoutez sur France Culture.
Oui!
Même quand le temps est grognon, on résiste difficilement aux diktats de la mode. L'été sera dentelle, robe longue, pantalon à pont. Aux pieds, les éternelles ballerines, les horribles tongs et les chaussures de sport, accompagnant une robe blanche ou une jolie combinaison pantalon couleur pastel. Que c'est ravissant, pense Lucas Fournier, Patrice Delbourg. Nous, parfois, on tord le nez, envie de résister. Eva Almassi est une résistante née. Son parcours dans la vie de Budapest à Paris en témoigne. Et aujourd'hui, elle peste. Eva.
Je déteste, je hais, je ne supporte pas, j'aborde et je condamne le port de baskets en ville, les running de l'asphalte, les sneakers des rues, les tennis de quai de gare.
Patrice Delbault, montre bien vos chaussures de jogging au micro.
Mais c'est exactement ça statistiquement, vous verrez plus tard. Imaginez ma souffrance. Pas plus tard qu'hier, à la station Versailles-Chantier, j'en ai dénombré pas moins d'une basket pour 4 chaussures, exactement comme ici, vérifiée.
Oui.
Tous âges et tous sexes confondus, car croyez-moi, sur un quai de gare bondé, ils sont bel et bien confondus, les âges et les sexes. Enfin, quand je dis « bel et bien confondu », c'est par le mot « bel » ou « beau » que le bas blesse. Le bas peut-être, me répliquent en cœur les défenseurs, les utilisateurs, les accros de la chaussure de sport. Le bas, oui, mais pas la basket. Elle est légère, bien bâtie, confortable, rembourrée de mousse à mémoire de forme, montée sur coussin d'air, munie d'éléments ultra légers en carbone, issus de la technologie de l'aviation et de l'industrie automobile. D'accord, stop! La basket, c'est tout ça, mais c'est moche. Eva, t'as du caca dans l'œil. Nous, on kiffe, c'est très beau. On ne voudrait pas d'autres pompes. On se fait remarquer, on marche dans les marques. On se regarde dans nos chaussures. La moitié de notre budget va à ça. D'accord. Les ados, je vous donne raison. J'abonde dans votre sens seulement. À votre avis, est-ce que ça va aussi bien à ces autres adolescentes de 60 ans et de 70, voire de 90 kilos, à ces jeunes gens sénescents et bedonnants? Pardon. D'accord.
Patrice Delbourg se détourne, mais non, ça vous va très
non,
bien,
non,
Patrice.
C'est pas vous,
vous
c'est
êtes l'exception.
Vous. Oui, absolument. D'accord. Pour eux, c'est encore plus recommandé par leur kinésithérapeute et chirurgien orthopédiste, le cas échéant. Mais c'est moche et ça semble aussi surfait que les 4x4 rutilants et rugissants dans les rues plates d'une petite ville de province ou sur la verticalité certes modeste de Montmartre. Auto et souliers se partagent les mêmes espaces urbains. Dans leur histoire récente, on retrouve le même caoutchouc pour les chaussées. D'accord. Permettez que j'exerce la liberté de mon opinion. C'est moche, c'est laid, excepté quand ça termine du haut en bas ou quand ça commence de bas en haut. Une cheville nue fine, une jambe mince, longue, un mollet fuselé, moulé dans un caleçon. Oui. Alors là, je veux bien cette jeune lycéenne, ce jeune collégien frisant la perfection physique, oui. Vous me dites que les autres, tous les autres, c'est justement pour atteindre à ces sommets d'esthétisme corporel qu'il est portent leur Adi Nike, leur Puma Coke, pour courir, sauter, s'exercer à tout moment, pour faire de leur quotidien du fitness tout le temps, perpetuum mobile, et perdre leurs 10-15 kilos de trop, et mettre eux aussi en valeur leurs tatouages de petits serpents ou de gros dragons sur telle ou telle partie sélectionnée de leur anatomie. Ah bon? Je les vois piétiner, moi, et en guise de perpétuum mobile, n'arrêtez pas de parler à leur mobile. La foule à la foule est fluide, tu parles. Basket classique, basket montante, avec vos encoches de flexion, votre système de suspension, vos améliorants, je cite, de la trajectoire naturelle du pied, je vous hais. À cause de vous, j'aimerais retourner au 19e siècle, où la femme et l'homme étaient jolis à croire les tableaux de Manet. Détour par le musée d'Orsay pour me rafraîchir le regard que je dois porter haut sur les hautes formes de ces messieurs picturaux, car sinon, un œil en race motte, et au musée aussi, les visiteurs aussi, tous ces touristes, chaussés de quoi je vous les donne en mille et en milliards de dollars par le business de la basket. D'accord, d'accord, d'accord. Jadis, il était un grand blond avec une chaussure noire. Naguère, un grand noir avec une chaussure jaune. Et j'ai nommé Michael Jordan. Mais ça pourrait être à la place du grand blond, un grand Bolt, Usain Bolt. Et dans ce cas, tout va bien. Ça pourrait être les danseurs de hip-hop, les rappeurs, les taggeurs. Oui, mais votre grand-mère. Aux yeux des équipementiers, le monde entier est leur équipe. La rue, leur terrain de jeu, leur piste de course au profit. Toutes ces nouvelles cendrillons du bal, avec leurs pantoufles à coussin d'air et leurs pauvres princes qui peuvent toujours courir. J'avoue que j'ai succombé récemment. La mode veut que la semelle soit d'un blanc immaculé, et cela en dépit des déjections de chiens et autres aléas de la météo. Même portée en cachette, aller-retour au marché, à la cueillette, à la pharmacie toute proche, la semelle blanche, ça ne me va pas du tout. J'ai acheté un gros feutre noir pour les noircir. Malheureusement, l'encre n'est pas permanente. Je dois retoucher le maquillage après chaque pluie. Mais c'est bien là la seule concession que je ferai à l'objet de mon ressentiment. Pour rester dans le sujet, ce sera la seule entorse.
Oh, c'est magnifique. Je vous trouve sévère, moi, les petites grand-mères qui ont des baskets roses. C'est mignon, quand même, non?
Oui, c'est mignon. Si, là, d'accord. Et, en rose, c'est mignon.
C'est vrai que ça fait très longtemps que je n'ai pas vu Patrice Delbourg venir jouer au papou avec des chaussures normales.
Non, mais quand on souffre, quand on a, un pied légèrement déformé, quand on a l'arthrose, ça fait tellement de bien d'avoir des baskets aux pieds et pas ces espèces d'escarpins lacés.
Ouais, de toute façon, vous mettez toujours en chaussettes, vous.
De toute façon, un jour, je viendrai pieds nus.
Bon, moi, je ne sais pas si j'ai un vrai point de vue sur les chaussures de sport en ville. En fait, ça ne me dérange pas. Ça vous dérange, vous, Lucas?
Je trouve que ces attaques, comme ça...
Oui.
Ça ne va pas.
Ça ne va pas.
Non, ça ne va pas. Donc,
Vous êtes vous, Lucas Fournier, là. C'est votre point de vue.
Non, c'est l'expression de tous ceux qui en ont assez et des critiques contre les porteurs de baskets. Moi, je fais une lettre ouverte aux ennemis des baskets.
Ah bon? Voilà. Donc à vous, Eva.
Oui, oui, une lettre ouverte parce que... Madame Eva s'est permis de proférer contre les baskets des réticences, voire des doléances, qui relèvent d'une certaine arrogance des porteurs de talons aiguilles et des chaussures en cuir. Le cuir, qui soit dit par parenthèse, est un pur produit de la maltraitance animale dont on sait l'ignominie. Oui. Parenthèse. Hein. Alors, les porteurs de baskets étant à l'aise, cool et easygoing, nous récusons toute polémique. Hein. Vous trouverez ici quelques témoignages de soutien purement factuels et les Français... qui ne sont pas bêtes comme leurs pieds, bien sûr, jugeront. Donc là, on a quelques petits messages, petites lettres, de M. Albert Le Talec, par exemple, président du syndicat des gardiens du musée d'Orsay, de faction devant le déjeuner sur l'herbe, qui a été évoqué tout à l'heure. Alors voilà ce qu'il dit. « Pour nous, dans les musées, notre vie a changé grâce au basket. Fini les parquets percés, matraqués par des semelles croûtées, et qu'il fallait poncer à genoux. La semelle caoutchouc préserve l'outil de travail. Ah, si Caillebotte avait connu les baskets.
Ouais.
Pour nous, gardiens de musée de la magistrature assise, le silence de velours qui enveloppe le pas des marcheurs nous permet un sommeil plus approfondi et plus réparateur à nos postes de travail. » Le basket, c'est la culture française. Voilà ce que dit M. Le Tellec. J'ai aussi un petit message de Noémie Piplet, présidente du syndicat des gardiennes d'immeubles. Avant, avec les semelles de cuir, tous les jours, j'en avais des gueules cassées. Un trottoir humide, et il est forcément humide quand on fait correctement son travail de lessivage du trottoir chaque matin. Un trottoir humide et des semelles, c'est du verglas. Et après, c'est qui se faisait gronder? C'était Bibi. Maintenant, c'est fini. Le basket, c'est la paix du voisinage.
Voilà. Ah, oui.
Encore un témoignage. Rémi X, manifestant. Les baskets, c'est important pour le militantisme. Pavé, asphalte, macadam, on marche mieux. Et face à un peloton des forces de l'ordre qui ont des rangers et des bottes, ça laisse une chance sur 100 mètres. Le basket, c'est la démocratie participative. J'en ai plein encore, j'en ai encore un autre là. Sylvie S, conseillère conjugale. J'ai vu dans mon cabinet des jeunes femmes mariées qui ont eu à souffrir de tendinite latérale de l'astragale, entraînant des épanchements synoviques sur le calcanéum à la suite du port de talons sous la robe le jour de la cérémonie. Ainsi, je préconise les baskets. Ça ne se voit pas, la mariée peut monter les marches, ne pas se casser la figure, arpenter les gravillons, danser avec son promu et arriver fraîche pour sa nuit de noces. Le basket, c'est le bonheur du couple. Voilà, nous n'allons pas vous casser les pieds avec la litanie des basketophiles. Puissent ces quelques témoignages de gens ordinaires vous montrer, Madame Eva, qu'il y a de la noblesse dans le basket et que c'est un peu de la civilisation qui colle à ses semelles. Nous récusons vos jugements à la petite semelle et nous n'aurons pas la cruauté de vous dire « Et toi, qu'as-tu fait de ton talon ?»
Ah ben, je suis déjà convaincue. C'est facile à
ben, vous voyez, il suffit d'écrire un pamphlet et puis
d'y retourner.
Et puis on est retourné. Oui. Oui. C'est formidable.
Eh bien, merci pour tous ces témoignages.
J'avoue, j'en ai bavé, pas vous, mon amour. Avant d'avoir eu vent de vous, mon amour. Ne vous déplaise, en dansant la javanaise, nous aimions le temps d'une chanson. À votre avis, qu'avons-nous vu de l'amour? De vous à moi, vous m'avez eu mon amour. Ne vous déplaise, en dansant la javanaise, nous aimions le temps d'une chanson.
La javanaise, joliment massacrée par les Castafiores. Panorama du corps féminin qui se dénude l'été même en ville, quand par une chaude journée on s'asperge à l'eau des fontaines ou sous les jets des jardins. Alors voilà, j'ai demandé à Gérard Mordilla, l'homme qui aimait les femmes, de choisir une partie de notre corps et de la définir en poème pour le petit rimailleur illustré Papou. Exercice subjectif pour vous, Gérard. Votre choix?
J'ai choisi le mot « sein », qui est le mot le plus généreux que l'on puisse trouver en pensant à une femme.
Et Lucas Fournier, on a un tour demain à trouver le sein de la femme dans notre dictionnaire.
J'ai trouvé le sein en dessous de la sème.
De la sème?
Oui, qui est la maladie du sabot des équidés. Fente extérieure de la couronne.
Quel curieux rapprochement. Alors le sein de Gérard Mordilla se présente amoureux sûrement.
Il se présente amoureusement en vers libre. Oui. Enfant au cinéma, nous chantions à l'entracte bonbons, caramel, esquimaux, chocolat, sucer les mamelles à Lolo Brigida. Ah, les lolos de Lolo. Il y en avait du monde au balcon. Des Robert, des grands et des petits, comme dans les dictionnaires, des Roploplos, des Nichons, ou, pendant que sur l'écran, Gérard Philippe jouait Fanfan, nous rêvions de nicher entre deux mamelons de l'île de Sein. Autre film, autre mœurs, Le Sein avec Roger Moore, alias Simon Templar, où seul son cadet pouvait affirmer, de ce frère plus vieux que lui, mon aîné, c'est Le Sein. Mais ne nous égarons pas au sein d'intrigues policières à Singapour. Revenons au mystère de ce que les femmes arborent comme une définition de mots croisés. En cinq lettres, les deux font la paire. Sein, du latin sinus, courbure, pli, il y en a pour tous les goûts, en pomme, en poire et même en Scooby-Doo. qu'il soit gros ou riquiqui, les seins toujours attirent la sympathie. On aime les découvrir, s'y insinuer, les toucher, les cajoler, les baiser. Adorable rotondité, comme on en voit aux sirènes, les lamantins aux beaux tétins, pigeonneaux frémissants, tendres et doux dans la main, petite brioche au lait que Tartuffe feignait de mépriser quand Margot dégrafait son corsage pour donner la gougoute à son chat. Car le sein est nourricier. Aréolé autour du téton, mieux que les seins de procession qui n'ont pour eux qu'une auréole. Et il tête les têtards. Le poupon tête comme le veau, comme le fils du cachalot, comme Romulus et Rémus, comme l'enfant Jésus, pendu à la mamelle de sa vierge de mère, dont les gouttes de lait remplissent les reliquaires, car il bavait le drôle, ou bien elle débordait. Saint des saints, saint Nibar, priez pour celles dont le sein n'est pas sain à 5%, celles qui ne peuvent même pas réchauffer un serpent dans leur sein, priez pour les sébastiennes dont mieux que les seins les bas se tiennent, celles dont les seins en gants de toilette tombent, pauvres poireblettes, plates comme des limandes, de véritables planches à pain. Que votre prière rejoigne la sagesse populaire qui enseigne « Plus la poitrine est plate, plus on est près du cœur ». Alors, ne jetons pas l'amplimousse aux Alice in Wonderbra, celles dont les faux seins corrigent la nature qui les a privées de ses glandes mammaires, généreuses poitrines, gorges opulentes, airbags montgolfières, qui font le succès des films de Russmeyer. Jadis, Saint-Georges combattait le dragon. Aujourd'hui, les fémènes, modernes amazones, combattent le soutien-gorge. C'est la lutte à seins nus contre les pudibonds qui, semblant saints, veulent régimenter le giron des belles dont les seins sont pour eux provocation. Ah bah, ces prudes, ces faux-derches, cette assemblée de faux-culs, oh les saints ! Et toujours le saint chantera l'hymne à la joie, car un saint vaut mieux que deux tu l'auras.
On sent l'amateur. Hein.
Mais ce n'est pas un amateur, c'est un expert. C'est un
docteur. Oui, ah bah oui, moi je... Oui, oui.
Il y a des mamelons surnuméraires partout. Bon. Donc évidemment, rien ne nous a été épargné.
Non.
Alors, juste un complément historique qui est intéressant. Ce n'est seulement qu'en 1538 que le sens de poitrine de femme est apparu. Et en 1798... que le sens « chacune des mamelles de la femme » se fait jour. C'est-à-dire que pendant 260 ans, le sein était unique, et c'est seulement à partir de 1798, donc après la Révolution...
Ah oui, c'est une vraie révolution.
Que le sein s'est libéré, et, ah oui. Et que chaque sein a trouvé son autonomie.
Ah oui, bah c'est passionnant.
Oui, c'est passionnant. Et alors, puisque vous êtes passionné, je vais vous proposer une citation magnifique dont je vous laisse le soin de deviner l'auteur.
Ouais.
Ces deux petits seins haut remontés étaient si ronds qu'ils avaient moins l'air de faire partie intégrante de son corps que d'y avoir mûri comme deux fruits.
Mmh, magnifique.
C'est joli, oui.
Oui, oui.
Marcel Proust.
Bravo.
Ah, oh, mais Proust. Magnifique. Mais oui, mais ah non, mais il connaît tout sur le sein.
Tous les auteurs qui ont écrit sur les seins, il les a lus. Et...
J'ai une bibliothèque entière sur les seins. J'ai consacré d'ailleurs de nombreuses heures de télévision à étudier les seins.
Et alors, il y a la citation de Léo Ferré dans Joli Môme. Ces petits seins à la coque, à l'amour, non ?
Ces petits seins sont pointus, comme des accents aigus.
Joli môme.
Moi, j'ai simplement Racine, si vous préférez.
Ah, bon, oui,
dans quel sein vertueux avez-vous pris naissance ?
Ah, c'est plus chic, c'est plus chic. Évidemment. Bon, mais c'est un très brillant exercice.
Oui. Moi, j'ai pensé en écoutant Gina Lollobrigida et Sophia Loren qu'au 19e siècle, les femmes mouraient de la poitrine et au 20e, elles en vivaient.
Vous écoutez France Culture, des papous dans la tête. Au micro, Françoise Tressart et la bande des papous du jour à suivre. Qu'est-ce que tu as encore inventé, Léonard ? Dernier épisode de la série chronique de Jacques Jouet. Ensuite, côté sportif, Rimbaud, Prévert, Jacques Vallée et Odile Conseil. Enfin, le jeu des bourrimés, auquel vous êtes conviés à participer sur notre page Facebook. Avec Gérard Mordillat, nous étions donc occupés à parler des seins de femmes. Avec Jacques Jouet, nous retrouvons le génial Léonard, celui qui aime tant faire plaisir à une femme, sa maman Vinci, pour laquelle il a encore inventé quelque chose de magique qui la libérera. Qu'est-ce que tu as encore inventé, Léonard ?
le bikini.
« Oh, les beaux jours que voilà !» dit Madame de Vinci au petit Léonard. « Regarde ce ciel magnifique, couleur de la ceinture de la Vierge Marie. Regarde ces fleurs toutes neuves, du jasmin. Oh, des amandiers ! Tu entends le miaulement des oursins, le hennissement des hippocampes et le cuicui des tellines ? Ce parfum de noix sèches et d'hélichrysome. Regarde cette eau sans pétrole encore, notre chère maman Méditerranée. Allez, tout le monde à la plage. Oh oui ! Tiens, tu vas porter ma valise, mon petit Léonard. Oh non, comment non, tu sais bien que j'ai mal au dos, que je ne peux pas porter. Tu n'as plus besoin de porter, maman. Bah, il faut bien que j'aie avec moi ma combinaison moulante, mon protège-combinaison, mon pansement de poitrine, ma cagoule, mon cache-bidon, mon panty, mes méduses et mes chaussettes longues de plage. Non, maman, car il y a du neuf. Ah, qu'est-ce que tu as encore inventé, Léonard ? J'ai inventé le moyen pour toi et tes semblables, je veux dire mes sœurs, mes tantes, mes cousines, mes copines, mes nounous, mes grands-mères, mes consœurs, le moyen d'aller à la plage sans porter une malle en osier pour chacune et qui pèse un âne mort. Si seulement, Léonard, dit Madame de Vinci, mais je ne sache pas que cela soit possible, hélas. Détrompe-toi, maman, regarde. Et le petit Léonard brandit au bout de sa main, en le faisant tournoyer comme une fronde, un minuscule sac de plage à motif floral, dans lequel aurait tenu, à peine, bien serré en boule, un chaton. « Qu'y a-t-il là-dedans, mon enfant, ma vie ? Un bonnet de bain ? Deux, maman. Deux bonnets. Mais enfin, tu n'as qu'une tête, mon petit Léonard, une tête bien faite et bien pleine, d'accord ? C'est vrai, mais enfin, une seule tête. Ce n'est pas pour moi, maman. C'est pour ma tête à moi ? Non, maman, pour tes seins. « Seigneur, pour mes seins, dit-il. Il parle de mes seins comme s'ils étaient les siens. » Apprends, Léonard, qu'un enfant ne parle pas des seins de sa maman avec autant de légèreté que si c'était des balles de ping-pong ou des bulles de savon. Loin de moi, maman, d'utiliser ce genre d'image pour les vanter. Ils sont très bien comme ils sont. Ils me plaisent, en tout bien tout honneur. Maintenant, écoute-moi, nous partons sans emporter de valise, pas de discussion. Fais-moi confiance, comme à ton habitude, et tout ira bien. Et Léonard, au petit matin, part à la plage avec sa maman. Et Madame de Vinci, par la même occasion, part à la plage avec son enfant. Dans le même petit matin, ils vont bras dessus en chantonnant. Quel plaisir de voyager léger. Les voilà à la plage. En un tournement, Léonard est en caleçon. Et maintenant, dit-il à sa maman, à ton tour. Tu vois ce tamari là-bas avec ses fleurs roses? Eh bien, tu te caches derrière et tu enfiles ceci. Et Léonard de brandir les deux petits bouts de tissu qu'il sort de son sac. Les yeux de Madame de Vinci s'agrandissent, mais enfin elle sait qu'elle ne peut faire autrement qu'obéir à son enfant. Elle fait l'effort d'essayer. « Léonard, mais comment ça marche ? Je ne serai jamais caché derrière ça. Il n'y a pas assez de tissu. Tu es complètement fou, mon enfant. Il y a un mode d'emploi ? Les deux bonnets avec la ficelle, c'est pour les seins. La culotte, bah, c'est pour le bas, quoi. Il y a le haut et il y a le bas. Il est vrai que dans la vie, il y a des hauts et des bas, convient Madame de Vinci. Mais tout de même, est-ce que je ne pourrais pas couper des branches de tamari et les glisser dans les ficelles ? Je n'ai pas encore inventé le camouflage de guerre, maman. » On va voir mon nombril. Il est très beau, ton nombril. Je le connais comme si j'y étais attaché dans une autre vie. Fais-lui confiance et confiance en tes formes. J'ai un copain dans le Nord, il s'appelle Rubens. En voilà un qui n'a pas peur des formes. Tu peux y aller. Si ça déborde un peu, c'est pas une affaire, au contraire. On n'est pas obligé de rêver d'être un sac d'os comme la Vierge Marie, maman. Il faut de tout pour faire un monde, maman. Tout le monde me regarde. Mais il n'y a encore personne, maman. Il est trop tôt. Mais comment je vais traverser la plage de sable entre le tamari et la première vaguelette ? Je vais courir. Ah, je te le déconseille formellement, ma petite maman. Si j'étais toi, au contraire, j'irais le plus lentement du monde, en me balançant sur la pointe des pieds, la tête haute, la poitrine en avant. Voilà, comme ça, continue. Tu sens le soleil qui te chauffe et tu entres dans les eaux comme un Botticelli, maman. Un Botticelli repeint par Courbet. C'est parfait. C'est un sans faute. Comment tu te sens, maman ? C'est merveilleux. Mon fils, j'ai l'impression d'entrer dans la caresse à l'état pur. L'eau de la mer, jamais je ne l'avais sentie de cette façon. Elle est à moi, je suis à elle. Ça me sert presque trop même la partie haute. Oh, ça craque ! Une vague, non, j'ai perdu le haut. Tant mieux, maman, c'est top ! Laisse-le partir. On le retrouvera sur le sable. Profites-en, amuse-toi. Jouis sans entrave. Oh, mon cher enfant, avec ces idées modernes. Mais oui, maman, il ne suffit pas d'être à la plage. Il faut aussi être à la page.
Ursula Andress dans James Bond.
Pour jouer le rôle de la maman, d'accord.
Oui.
Comme vous voulez.
Andress est en bikini. Oui.
Si cette histoire vous amuse, on peut la recommencer. Si c'est pas drôle, je m'excuse. En tout cas, c'est terminé.
Le sport vu par les papous, il sera littéraire forcément et culturel d'âme. Nous sommes sur France Culture, ludique aussi, nous sommes aux papous dans la tête. Alors vous avez du foot plein les yeux, du vélo sur les routes du Tour et tous les sports possibles très bientôt avec les JO. Jacques Vallée, amateur de foot, de vélo, j'en passe, a pourtant choisi de nous raconter une autre addiction sportive. Et qui seriez-vous pour l'occasion, Jacques ?
Moi, je suis Arthur Rimbaud.
Oui, soi-même.
Voilà.
Le très jeune Arthur Rimbaud.
Oui, enfin, j'ai trouvé des textes d'Arthur Rimbaud.
Oui.
Voilà,
oui.
C'est pas vous, quand même.
Il ne
faut pas exagérer.
Oui, oui.
Et puis, je pratique la boxe thaïlandaise.
Ah.
Une boxe très proche de la boxe française, c'est-à-dire qu'on utilise les pieds.
Oui.
Mais un peu plus violente. La boxe française a une certaine élégance et du style un peu...
Oui, c'est les jambes et, voilà, et les mains.
Alors
hein,
que la boxe thaïlandaise, c'était une boxe de combat, c'est un art martial.
Oui.
C'était pour se défendre contre l'invasion des Birmans ou de je ne sais pas quel voisin.
Oui.
Et donc, c'est très, très violent.
Tous
les coups sont permis.
Je crois que la seule chose qui soit interdite...
Sauf les morsures.
Et de mettre les doigts dans les yeux.
Voilà.
De l'adversaire.
Oui, voilà.
Ce qui ferait effectivement très
mal. Mais autrement,
il y a
souvent des chaos parce que c'est assez violent quand même.
Et surtout, les rounds sont de 3 minutes, c'est tout. Donc
oui,
effectivement.
Oui. 3 rounds de 3 minutes.
Et en général, il y a le chaos au bout du premier round. Non. Vous avez déjà assisté, vous, en tant que Jacques Vallée?
Non.
Un combat?
Non, non, j'ai vu des images.
Et Gérard Mandia?
Moi, j'ai connu le champion du monde français de boxe thaï.
Ouais.
Je suis en train de chercher son nom.
Il y avait Dida Diafa.
Ouais, Dida, c'est lui.
Ah oui.
Dida Diafa.
Voilà. Ah oui.
Qui a fait un film, d'ailleurs, ouais, qui racontait ça. Parce que ce qui est terrible dans la boxe thaï, c'est qu'on tape avec les coudes et avec les genoux.
Oui,
aussi.
Avec les genoux et tout ça. Ouais. Ça va très bien au petit Arthur Rimbaud qui a toujours besoin de se défouler.
Et oui, évidemment, donc il a raconté son amour de la boxe thaï.
Non, il écrit 2 sonnets.
Oui, sur le sujet, quoi.
Sur le sujet.
D'accord.
Le premier. Au milieu de la salle, en une apothéose, je m'avançais féroce en dansant le sabbat. Je sautais sur le ring avec au cœur des roses et des rubans noués autour de mes 2 bras. J'oubliais que mon short avait un large trou. Le sang païen bouillait à nouveau dans mes veines. J'allais enfin pouvoir les défoncer de coups et faire des bons sourds comme une brave hyène. Oh là là, que de coups splendides je rêvais. Les poings, les pieds lancés si fort dans la colère, les coudes, les genoux pour frapper l'adversaire. Où allais-je? Au combat? J'étais faible pourtant. Mais je sentais frémir sur moi le vent mauvais. Sachez-le, désormais, je serai très méchant.
Oh, c'est magnifique. On reconnaît le style, non, Jacques Jouet?
Ah oui.
On a presque l'impression de l'avoir lu, déjà.
On reconnaît bien le style.
On reconnaît. Hein.
Et puis le deuxième est plus doux.
Ah bon?
Chaque assaut que je porte engendre des dommages. Je lance de lourds coups de tibia circulaire. Évelant, avec de furieux cris de rage. Qu'est-ce que c'est pour nous, mon cœur, que ce garçon à terre? J'ai pourtant admiré sa beauté défensive, et maintenant il gît sur le plancher moelleux, un enfant jeune, bouche ouverte, naïve, et la nuque baignant dans le frais tissu bleu. Torse nu, les pieds nus, il dort dans la lumière, confiant comme un enfant dans les bras de sa mère. Il a l'air d'avoir trouvé enfin le repos. C'était pour s'en sortir la boxe thaïlandaise. Pendant le premier round, il paraissait à l'aise. Mais mon pied a suffi pour le mettre KO.
Ah, c'est plus doux, vous avez
raison. Oui. Mais ça tendrit au moins.
Oui.
Ah, l'équipe de boxe de Charleville était très connue à ce moment-là.
Oui, bah oui, justement. Oui, c'est...
oui mais boxe thaï.
Oui, boxe thaï.
Ah oui. Ah, il y a une école de Charleville sur
oui,
la boxe thaï.
Oui, parce que j'ai justement une lettre du directeur de l'école.
Ah bon?
Oui.
Ah oui, qui a donc bien connu le petit Arthur Rimbaud
voilà,
quand il faisait de la boxe.
Qui écrit à Madame Rimbaud. Lettre du professeur de l'école de boxe thaï de Charleville-Mézières à Madame Rimbaud.
Oui.
Chère Madame, Vous m'avez amené votre petit Arthur à 5 ans pour libérer ses énergies. C'était un petit poussin rêveur, renfermé, entêté. La boxe thaïlandaise, vous ai-je assuré, ne lui transmettra pas seulement un savoir codifié, mais développera chez lui la maîtrise de soi, le courage d'affronter le quotidien, la simplicité. Elle renforcera à la fois la volonté et le spirituel. L'enfant a ainsi depuis gravi tous les échelons de l'un des arts martiaux les plus populaires. Lors des derniers championnats de France qui réunissaient les jeunes les plus doués de la discipline, il est même devenu, en remportant de haute lutte la médaille d'or de sa catégorie, le meilleur minime de l'Hexagone. Ce fut une récompense pour notre club. Nous avons pensé qu'il était prêt à gravir un échelon supérieur en affrontant des adversaires européens.
Ah oui.
C'est pourquoi nous l'avons engagé dans le tournoi de préparation au championnat d'Europe qui se déroulait à Arles. Voici brièvement ce qui s'est passé. Arthur a d'abord dominé le champion de Belgique des plumes, un certain Michaud, qui bizarrement n'a pas semblé être intéressé par le combat et qui, dès le premier round, s'est endormi KO.
Ah bon, le pauvre, oui. Ouais.
Ensuite, il avait affronté un jeune Hollandais, un valeureux mineur, un opposant coriace. Et là, ma parole, votre fils est devenu fou. Je n'en dirai pas plus, j'ai honte. Vous lirez le récit 6 juin qu'a donné de ce combat un journaliste sportif dans le bulletin de Saint-Paul-de-Vence. Vous comprendrez que le cas de cet enfant ne peut plus être réglé dans le cadre de mon école. Aussi, je me permets de vous annoncer, chère madame, que nous rayons définitivement Arthur de nos effectifs. Et c'est signé Anouat Kefsamrit. C'est un nom très connu dans la boxe thaï.
Je crois que
c'est une famille où il y a eu des champions du monde. Donc
de père en fils. Oui.
Voilà, exactement. Oui. Alors,
et donc, il a viré le petit Arthur Rimbaud.
Ah oui, parce qu'il s'est passé quelque chose que le journaliste va
raconter.
Oui,
et c'était qui le journaliste alors à l'époque?
Ah, c'était Jacques Prévert.
Ah oui.
Il écrivait dans le bulletin de Saint-Paul-de-Vence. Alors, il écrit une complainte thaïlandaise. À Arles, où roule le Rhône dans l'orageuse lumière du ring, un enfant terrible et sauvage, un peau rouge criard et qui a pris pour cible un Hollandais irascible, se lance dans la bataille. Et l'enfant montre sa maîtrise du taille. Corps à corps, coup de pied pénétrant, technique de parade et d'esquive, une projection avec la hanche, un fauchage avec le pied, un barrage avec le bras, un blocage avec le tibia, une saisie avec les mains. Et l'enfant s'appelle Arthur. Et l'on a envie de l'appeler Arthur tant il se montre provoquant. Son adversaire s'appelle Vincent. Vincent arrive comme un évêque qui aurait sur sa tête une mitre. Il ne gaspille pas son énergie comme cet Arthur qui fait le pitre. Il a le regard bleu et doux, et il contrôle le combat. Arthur a perdu le premier round. Le voilà qui sort de son coin fou de rage, coupé au-dessus de l'œil droit par un coup de tête maladroit. Il déclenche une réplique bestiale. Sa raison le lâche, ses nerfs sautent, il repousse violemment l'adversaire et brusquement le mord. Cet homme de phosphore et de sang, Arthur, a mordu l'oreille de Vincent. Dans le ring, recouvert de toile rouge, d'un rouge soudain éclatant, se mélange ce rouge si rouge au sang de l'oreille de Vincent. Et Vincent fait des bonds de douleur. En hurlant, tourne en rond, et le public maintenant en hurle. Bandit, voyou, chenapan. Tandis qu'on ramasse sur le tapis le bout de chair sanguinolent, le bout de chair de l'oreille de Vincent. Et l'arbitre, sans oser le prendre, le regarde sans comprendre, mais doit se rendre à l'évidence. On couche l'oreille dans un linge, on l'emporte cérémonieusement, pieusement, tandis qu'Arthur fait le singe et siffle copieusement. Il tire la langue, les deux poings levés, et Arthur est disqualifié. Vincent ne peut plus le voir en peinture. Quelqu'un crie « Tu l'as dur, Arthur !» Mais Arthur n'entend plus rien. Et il reste là, rêvant, râlant, ébloui par son propre rage, et le public s'en va indifférent, tandis que le soleil sur Arles, en hurlant, tourne en rond. Et c'est Jacques Prévert.
Qui a écrit ça? Mais on le reconnaît, non, oui. Jacques Jouet?
C'est facile à dire maintenant, il l'a nommé.
Ah, vous pensez qu'il aurait dû le proposer comme devinette?
Non, c'était évident.
Mais donc, il a mordu l'oreille. Mais c'est pas dans les règles, effectivement. Ben non, alors, oui. Peut-être que son prof lui avait pas tout dit, non?
Oh, je pense que si, mais c'est qu'il était un peu sauvage.
Il était rebelle. Oui. Bon, et à partir de ce moment-là, le petit Arthur n'a plus jamais pratiqué la boxe.
C'est fini, ben ça
parce qu'il était interdit, comme on est interdit
non, mais
de casino.
Après, je crois qu'il a rencontré Verlaine et c'était un autre sport.
Est-ce que c'est un dossier extrêmement complet sur la boxe thaï et sur Rimbaud? Vous auriez quelque chose cependant à ajouter, ou dit le conseil?
Oui, figurez-vous que Georges Moustaki a découvert que Rimbaud et Verlaine ne s'adonnaient pas seulement à un certain nombre de choses, mais ils faisaient du tandem ensemble.
Ah bon?
Et il en a fait une chanson. Les amis d'Arthur n'étaient pas très nombreux, pas grave car il suffisait d'être deux pour pédaler ensemble sur la même bicyclette. Ils roulaient en faisant des vers, c'était rien chouette. Ils s'appelaient Rimbaud, ils s'appelaient Verlaine, ils remplissaient leurs verres et les vidaient sans peine. Quand il leur arrivait de faire du tandem, ils étaient ivres de joie, parfois un peu trop même. Arthur et Polo, ensemble zigzaguer, tentaient tant qu'ils finirent par tomber, le nez dans le fossé, le pantalon troué. Ils en vinrent même à bien fort s'engueuler. Mais pourquoi t'as freiné, espèce d'imbécile? Moi devant toi, derrière, tu dois rester docile. Mais pourquoi c'est toi d'abord qui es toujours devant? Moi aussi je veux pédaler le nez au vent. Verlaine et Rimbaud ainsi se sont fâchés. C'est là que leurs routes se sont séparées. Mais il reste un mystère, une sorte de devinette. Lequel des deux a pu garder la bicyclette?
C'est quelle chanson de Moustaki?
Les amis de Georges.
Ah là là.
C'est mignon.
C'est mignon, voilà. Mais est-ce que vous le saviez qu'ils faisaient du tandem ensemble?
Non, non, mais je suis heureux d'apprendre quelque chose. Je viens ici pour apprendre.
Mais on se cultive beaucoup, papou dans la tête.
C'est une façon de parler, faire du tandem à deux.
Oui. Baby keep smiling.
Meilleur sourire.
You know the sun is shining.
Et c'est ce long et fallé.
Meilleur sourire.
Meilleur sourire.
Et c'est ce long que vale.
Et c'est ce long que vale.
Meilleur sourire.
Ah, vale.
Et c'est ce long que vale.
Aquí con Lu Vega.
It's hot outside, so for me it is a brand new day that I shall kiss. And if you feel the same way too, then do the things that I'm gonna do. All we need is a mobile phone to tell everybody we are not at home. And if you have to work all day, then listen what I got to say. Baby, keep smiling. You know the sun is shining. Baby, keep smiling.
Haciendo.
You know the sun is shining.
Este gran pico.
Es sonríe. Es eso lo que vale.
Es eso lo que vale.
Niño sonríe.
Niño sonríe.
Es eso lo que vale.
Es eso lo que vale.
Niño sonríe. Es eso lo que vale.
Esa.
Lou Béga et Compay Segundo. Dernière séquence de ce numéro des Papous dans la tête sur France Culture. Rime de hasard pour poème à notre façon et la critique des bouts rimés. Alors pour jouer, vous podcastez les Papous, vous notez les mots, vous écrivez vos poèmes vous aussi et vous les postez sur notre page Facebook. On vous lira, on vous répondra avec bonheur. En piste, côté papou, Jacques Jouet, tout seul, Jacques, face à un chapeau plein de mots. Jacques Jouet, le poète
solitaire. Mais donnez-moi 10, je les prends tout de suite.
Vous voulez que j'ai tiré au sort
oui,
pour vous
mais oui.
Non, allez, bon. Choisissez. 5.
Alors, les deux premiers, mais il faut que je mette mes lunettes. Ils sont tapés à la machine et ils ne sont pas signés.
Ah,
c'est mauvais signe.
C'est le tellier en général.
Le tellier tape à la machine sans signer.
Il tape à la machine, il ne sait plus écrire.
Cher monsieur.
Alors, il y a le mot affable et le mot diable.
Mais ça, je ne vais pas les accepter.
Ce n'est pas possible. Affable et diable, non. Oui, vous avez une raison.
Là, je les ai déjà utilisés.
Ah bon, c'est une très bonne
raison. Dans un poème qui n'était pas un poème tellement réussi.
Oui, d'accord, on les oublie. Vous les mettez de côté.
C'était en hommage à ce poème que je voulais redonner sa chance à Jacques. C'est deux mêmes mots, mais...
Alors, nouveau papier.
Ah, alors là, c'est illisible. Mais je crois, en faisant un petit effort quand même.
Oui. Eva.
Manet, je pense, c'est le peintre.
Oui.
Parce qu'il y a un M majuscule.
Oui.
Et le verbe émaner.
Alors ?
Alors, ça, je ne vais pas les accepter.
Ça ne rime
non plus.
C'est de là parce que, ouais, les rimes.
Il faut que je les prononce moi pour que ça rime.
C'est-à-dire, non, ça donnerait quoi, Eva ?
Non, mais oui.
Mais Manet et émaner. Je ne dis pas Manet, je dis Manet.
Non, mais ça ne rime pas pour l'œil, alors ça m'embête un petit peu pour.
Oui, parce qu'à la radio, l'œil, c'est très important.
Oui,
l'œil
oui.
Écoute, vous savez. Ah, oui. Qui disait ça, le dessinateur Philippe Labarthe, je crois.
L'œil écoute, c'est un livre de Paul Claudel, avant
dessinateur Philippe Labarthe. Mais moi, j'ai connu Labarthe et pas Claudel. Alors,
troisième chance. Toujours tapé à la machine, non signé, donc HLT, Boulange, Ange.
Ah, ouais. Après le diable.
C'est plus intéressant.
Non.
Ben voilà, trois refus.
Alors, disons que comme vous êtes tout seul, vous avez le droit de refuser davantage.
Ayant refusé le diable, je n'allais pas l'accepter un ange.
Eh bien, il y a Dieu maintenant.
Ah, voilà. Déménagement, irrévocablement.
Irrévocablement, heureusement que j'avais demandé des mots courts. Qui a mis ça ?
C'est moi, mais je vais. Mais ils me plaisent, ceux-là, je vais les prendre, si vous permettez.
D'accord, déménagement.
Irrévocablement.
Ensuite.
Un hémistiche de rempli.
Ah, voilà deux beaux mots proposés par Eva.
Oui.
Émeraude et fraude.
Ah, très bien. Émeraude et fraude.
Ça, ça s'annonce très très bien.
Oui.
Ensuite. Course-source.
Course-source, ça vient de qui, ça ?
D'Eva également. Donc, je ne peux pas accepter à la suite deux couples de mots venant d'Eva.
C'est la règle que vous instaurez pour notre jeu. Bon, alors mettez-les de côté, ce sera pour un autre jour.
Il ne reste plus rien.
JB. Ah, JB. me propose matelas et mozzarella.
Oh, oui. C'est audacieux.
Mais pour le matelas, mozzarella, il y a le la en commun.
E-la. Et là.
E-la, oui. Alors, qu'est-ce que vous en dites ?
Je prends.
Pour l'œil, alors, pour les yeux.
Alors, encore Hervé Le Tellier, il y a encore. Tout à l'heure, il y avait diable et ange, maintenant, il y a adieu et Depardieu. Ça fait vraiment, ça fait vraiment beaucoup, je trouve, quand même.
C'était mais.
J'ai eu un week-end mystique.
Vous en avez déjà refusé 5 au moins.
Non, tu ne peux pas refuser tout ce que je propose, quand même.
Non, là, j'en
attends, adieu et Depardieu.
Oui, non, c'est un côté.
Y a pas vraiment...
bien, c'est bien.
J'en ai refusé 5 déjà. Là.
Oui, ça donc c'est fini pour les refus. Pour le moment, vous en avez accepté
2,
3. On n'est pas tiré d'affaire.
Alors, on va aller plus vite désormais.
Oui.
Ouzbékistan, sextant.
C'est
Jérôme Clément.
Oui.
Ben, c'est pas mal, ça.
Oui, c'est bien, ça.
C'est très bien.
Federer nucléaire.
Ça, c'est Jean-Bernard Pouille. Il est obsédé par Roger Federer.
Mais je ne pourrais pas changer le... échanger avec un précédent.
Ou si vous voulez, on peut instaurer cette règle. Oh, Dieu et adieu.
Nadal fatal.
Je vais prendre affable et diable.
Ah, vous voyez, on revient toujours à Hervé Le Tellier.
On y revient.
1, 2, 3, 4, 5. Vous avez 5 couples. Encore 5.
Plumitif, expéditif. Voilà, ça c'est bien ça. Karcher. Karcher, facochère.
Ben voilà un personnage.
Monsieur Karcher, oui.
Monsieur Karcher, oui. Huitième couple.
Bouteille, Marseille.
Ah, ça c'est un très beau duo.
Hervé Le Tellier, je pense.
Hervé Le Tellier, évidemment.
Don Quichotte, Motte.
Don Quichotte, Motte. Hot, shot, motte.
Oui, hot,
oui. Motte. Moderne, ça vient de.
C'est une rime hot. Jérôme Clément.
Oui. Il n'est pas très gâté, hein, là, je trouve, quand même, Jacques Jouet. Bien qu'ayant beaucoup
refusé. Il a beaucoup refusé. Non, mais il triche.
Non.
Ah ben, on l'a vu.
On t'a tous vu. Tu l'as ouvert et tu l'as reposé.
C'est toujours le même que je.
Si on avait fait ça à deux, on s'est fait attraper.
Ben celui-là, il est très bien. Pastèque, aztèque.
Ah,
ça, c'est de la rime.
Très bien.
Ça,
on
c'est
a déjà l'Ouzbékistan et maintenant on a les Aztèques.
Pour un petit tour du monde, c'est parfait.
Aztèques. Alors, je récapitule. Nous avons déménagement irrévocablement. Émeraude, fraude, matelas, mozzarella. Finalement, on s'habitue. Hein. Au début, on ne le trouvait pas terrible. Mais il y a eu tellement de refus, Jean-Bernard Pouy, que votre matelas accompagné de la mozzarella, ça marche très bien.
Je vous remercie, Françoise.
Ouzbékistan, sextant, affable diable qui nous vient d'Hervé Le Tellier en deuxième chance. Plumitif, expéditif, karcher, facochère, bouteille, Marseille, Don Quichotte, motte, pastèque, aztèque. Eh ben, dites donc, qu'est-ce que vous feriez avec ces mots, vous
Moi, j'irais à Marseille, je les mettrais dans une bouteille que je jetterais à la mer.
Pas si vite, pas si vite, Eva. Attends.
Il y aurait bien un poète qui repêcherait
ça. Mais j'ai pas le temps de
copier. Il n'a pas le temps de prendre des notes. Travaille, Jacques Jouy, il rencontre les pieds de ses vers. Ça le rend heureux parce qu'il chantonne. On vous retrouve, Jacques Jouy. Vous étiez seul face à une armée de mots. Ça a été difficile de les choisir. Hein. Vous en avez refusé énormément.
Malheureusement, vous savez.
Ceux qui sont restés, vous pouvez nous les donner.
Bien entendu. Mm. Bouteille Marseille, pastèque aztèque, Don Quichotte motte, karcher facochère, plumitif expéditif, affable diable, Ouzbékistan sextant, mozzarella matelas, émeraude fraude, déménagement irrévocablement.
Bon, je sens très bien votre ton qu'il y a des mots qui ne vous ont pas vraiment plu. Vous avez fini par les prendre parce qu'il fallait bien en prendre quelques-uns quand même. Non, il y a un mot qui dérange ?
Non, il n'y a pas de mot qui dérange.
Oh, je vous ai vu tordre le nez sur facochère, non ? Ça s'est bien passé ?
Non, facochère, très très bien.
Et alors, les deux mots qui déclenchent l'envie d'écrire sont lesquels ?
Oh, c'est surtout le mot matelas.
Ah, le fameux matelas de Jean-Bernard Pouy, ouais. Et la mozzarella avec.
Je dis, si je réussis à caser la mozzarella, j'ai gagné d'avance. Le travail est fini quasiment.
Comment se présente le poème ?
Eh bien, c'est une chanson, figurez-vous.
Oh, ça c'est chic. Sur un air connu.
Oui, bon, sur un air que je connais, personnellement.
Est-ce qu'on va le reconnaître ?
Oui, vous allez le reconnaître, bien sûr.
Vous avez un titre ?
Oui, j'ai un titre. Également le titre de mon tour de chant, qui est en prévision.
Votre récital.
Mon récital.
Oui.
Ça s'intitule « Retournez vos matelas de temps en temps ». Je m'adresse à mon public, et c'est le titre de la chanson qui démarrera l'album, si album il y a. « J'ai trouvé hier matin, en retournant mon matelas, » un sandwich avarié à la mozzarella, avec un peu de beurre à la motte. Il était immangeable irrévocablement, faut dire qui datait de mon déménagement. Dans le studio de la rue Don Quichotte, je retournais mon matelas en cherchant une émeraude que j'avais rapportée évidemment en fraude. D'un long séjour chez les Aztèques, accueilli frugalement comme un pauvre plumitif, à coup de déjeuner plutôt expéditif, ou ni avec des pépins de pastèque. Le sommier méritait un passage au karcher, comme s'y vivait dessus un couple de facochères, qui sont des animaux affables. Où ai-je bien pu ranger mon savon de Marseille et le vinaigre d'alcool dont j'avais deux bouteilles ? Ils ont disparu par tous les diables. Le matelas est taché, faut que je sorte mon sextant. Il y a des cartes de France et même d'Ouzbékistan. C'est peut-être pas que le beurre à la motte. Comment je peux faire le point irrévocablement dans ma vie, mes amours et mes déménagements, fou comme si j'étais Don Quichotte.
Bravo.
J'étais obligé de répéter, d'utiliser plusieurs fois
Don Quichotte,
beurre à la motte,
oui.
Irrévocablement et déménagement, mais parce que le conte n'y était pas.
Ah bah oui, mais c'est une chanson, et c'est très bien de redire des mots aussi valeureux.
Heureusement, le facochère n'est pas revenu.
Bon, c'est formidable. Et puis avoir choisi un air de Brassens pour nous chanter ça.
Ah, c'était Brassens
C'était une très bonne idée. Hervé Le Tellier, je sais que vous, de temps en temps, vous faites des piges à droite à gauche. Il faut vivre quand même. Et là, vous avez justement fait une critique du recueil de Jacques Jouet et de ce poème en particulier.
Oui.
Et alors, c'est bien,
c'est
ça
un,
vous
plutôt
plaît.
Un tour de chant. C'est plutôt un tour de chant qu'un recueil.
Oui, c'est un récital. Non,
moi, je ne suis pas poète, je suis.
Alors, c'est pour Savon Magazine.
Savon ?
Oui, Savon
Magazine. Ah oui, à cause du Savon de Marseille.
C'est un magazine qui s'occupe principalement de toutes les questions d'hygiène.
Ah oui, évidemment.
Et donc, on suit de très très près le travail de Jacques Jouet.
Je suis ravi, ça concerne tout le monde.
Bah oui, absolument, absolument, absolument. Et donc, vous vous rappelez le premier en 2012 tour de chant qu'avait fait Jacques Jouet, qui s'appelait Descend la poubelle en repartant.
Ah oui.
Un très beau tour de chant. En 2014, il avait fait Faisons la vaisselle régulièrement, qui avait donné l'occasion d'une tournée énorme sur les plages de France. Et puis là, évidemment, Retournez vos matelas de temps en temps est amené, à mon avis, à connaître le même succès. On sait que la lutte contre les acariens et les insectes domestiques constitue désormais le terreau, enfin le principal support poétique et musical de l'œuvre de Jacques Jouet. Et par exemple, une chanson qui en sort un tout petit peu, c'est Le lombric dans le compost, qui fait un peu exception, parce que zoologiquement, le lombric ne relève ni de l'insecte ni de l'acarien.
Non, non.
Mais c'est un poème d'amour, et donc on peut le comprendre. Je vous rappelle peut-être les paroles.
S'il vous plaît, oui.
Elle est à toi, cette chanson. Toi, le lombric qui, sans façon, a transformé mon bout de pain en compost pour mon jardin. Je ne la chante pas, mais peut-être que Jacques pourrait peut-être nous rappeler.
Pour y la chanter.
Hein, ce n'était rien qu'un bout de pain, mais elle a fait pousser ma flore, et dans mon cœur, il brille encore sous un soleil méditerranéen.
C'est
un
vrai.
Très beau poème d'amour au lombric. Hein. On pourra regretter, évidemment, quelques facilités. Je pense en particulier à cette petite série de poèmes sur la salle de bain, qui s'appelle Les savons d'Hélène, par exemple, ou Les shampoings d'abord. Hein, dont je ne vous rappelle pas l'air des shampoings d'abord, mais enfin bon, c'est très entraînant quand même. Hein. La tournée de Jacques va se dérouler dans les lycées et collèges, principalement tournée vers les métiers de l'hygiène.
Ça va mousser.
Donc ça va mousser pas mal, oui. Il y a une petite soirée mousse, paraît-il, m'a-t-on dit, pour la fin en général de ces spectacles. Et moi, je lui souhaite bonne chance, c'est utile. Puis de toute façon, la dimension pédagogique n'est jamais oubliée chez Jacques Jouet. Et c'est important donc de souligner le caractère, éducatif de son travail, qui devrait traverser, à mon avis, les frontières et sans doute les fibres, de manière à justement bien laver. Et je remarque d'ailleurs que maintenant, il est accompagné par les tambours, ce qui permet quand même d'avoir un travail beaucoup plus efficace. À fond.
Bon, c'est extrêmement élogieux. Puis c'est quelqu'un, au moins, Hervé Le Tellier, qui suit votre travail.
Il a pris son essor, jusqu'à dire son essorage, il y a maintenant un certain temps. Et il y a de l'avenir.
Des papous dans la tête, c'est fini pour aujourd'hui. Une émission proposée par François Strossard avec Anne de Pelchin et Claude Niort, à podcaster sur franceculture.fr. À la page des papous du jour, pour jouer, pour échanger entre complices des papous, direction notre page Facebook, toujours ouverte, même pendant les vacances. Dès demain, grille d'été sur France Culture. Vous nous retrouverez le dimanche pour de jolies rediffusions, notez l'heure inhabituelle, 20h. Au revoir, passez un bel après-midi à l'écoute de France Culture. Vous y serez toujours en très bonne compagnie.
Quoi, quoi? Ah!